là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Bonjour Laure Godino.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 13.
Oui.
Et auteur du livre « La Commune de Paris par ceux qui l'ont vécu ». Qui est sorti en septembre 2010. Et donc, on va parler ensemble de la participation des femmes à la commune. Mais je voudrais commencer d'abord par une présentation de la condition des femmes en France dans ces années-là.
La condition des femmes se caractérise par une soumission assez grande. Bien sûr, il faut distinguer les femmes des classes aisées qui ne travaillent pas, qui sont reléguées dans la sphère privée, et les femmes des classes populaires qui, elles, travaillent parce qu'il faut apporter un salaire supplémentaire. À Paris, donc, de nombreuses femmes sont ouvrières, en particulier dans le textile, dans la confection, dans l'alimentation. De façon générale, la situation est effectivement extrêmement dure pour les femmes à Paris, pour tout le monde, mais aussi en particulier pour les femmes pendant le siège. Alors, il faut bien voir que les femmes mariées ou concubines non seulement subissent de plein fouet la question de la faim, et ce sont quand même elles que l'on voit donc faire la queue pour obtenir ce qui fait office de pain, pour obtenir un peu de viande qui est rationnée, pendant le siège à Paris, puisque Paris connaît la faim, le froid, du fait du blocus. C'est vrai aussi que donc, ces femmes peuvent bénéficier de cette solde du garde national lorsqu'elles sont mariées ou concubines, d'autant que la solde peut être augmentée en cas de charge de famille. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans une situation précaire. Et ce qui a existé au XIXe siècle, hein, et qui est une réalité, probablement se développe au moment du siège, à savoir cette prostitution effectivement épisodique, qui est une pratique assez répandue, hein, c'est-à-dire donc des femmes ouvrières qui, pour accroître l'argent disponible, se livrent à la prostitution. Ça peut être des femmes célibataires, mais ça peut tout à fait aussi être des femmes en ménage, pour dire les choses clairement, qui ainsi arrondissent l'argent du ménage par cette pratique. Par ailleurs, est toujours en vigueur le Code civil de 1804, le Code civil napoléonien, qui prévoit une réelle soumission de la femme mariée à son mari, une dépendance très grande. Et en ce qui concerne leurs droits dans la famille sont assez limités et leurs droits politiques sont pratiquement inexistants puisque les femmes ne votent pas. Le suffrage universel a été instauré en 1848, mais c'est le suffrage universel masculin qu'il faudra attendre le XXe siècle, 1944, pour que les femmes aient le droit de vote et pour qu'elles votent la première fois en 1945. Donc, globalement, une assez grande dépendance, une assez grande soumission. Il y a quand même des féministes minoritaires à Paris essentiellement qui revendiquent une égalité plus grande et le droit de vote, mais encore une fois, c'est une toute petite minorité. Il y a une situation plus spécifique à Paris, en particulier dans les classes populaires. D'abord, en ce qui concerne, on pourrait dire, le mariage, puisque un grand nombre de couples vit en concubinage pour des raisons d'abord matérielles, c'est-à-dire que le mariage coûte cher, et puis parfois pour des raisons qui sont plus liées à la volonté de chaque membre du couple. Il y a aussi une situation particulière dans le travail, puisque ces femmes travaillent et peuvent avoir des métiers qui sont proches de l'artisanat, comme les hommes hein, d'ailleurs. Dans le reste de la France, elles peuvent avoir des emplois tout à fait non qualifiés. À Paris, il y a toutes ces femmes, à la fois du petit commerce, mais aussi toutes ces femmes de la petite industrie ou encore de la petite boutique. Et puis enfin, à Paris, à la fin du Second Empire, on a un certain nombre de femmes militantes qu'on voit apparaître. Il y a Louise Michel à Montmartre, mais il y en a d'autres, comme Paul Minck, par exemple, qu'on va retrouver pendant la Commune.
Il y a un certain nombre de femmes qui commencent à s'organiser.
Alors on voit apparaître donc effectivement un certain nombre de militantes à la fin du Second Empire qui s'organisent à la fois autour de la thématique sociale et là en fait elles se distinguent assez peu des hommes. Il s'agit d'obtenir un certain nombre de droits sociaux ou d'aider les plus nécessiteux comme on dit à l'époque. Il y a des femmes qui adhèrent à l'international, il y a des femmes aussi qui cherchent à aider à l'instruction. Encore une fois, c'est le cas de Louise Michel qui a fondé une école à Montmartre, qui est institutrice à Montmartre. Et puis, il y a des femmes qui revendiquent aussi, quelques-unes, des droits de la femme plus importants. C'est le cas d'André Léo, que l'on voit dans les journaux d'opposition à la fin du Second Empire, qui revendique une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. C'est le cas aussi des femmes qui font partie du comité des femmes que l'on voit apparaître pendant le siège. Comité des femmes qui revendique lui aussi une plus grande égalité homme-femme, mais dont la spécificité est d'avoir été lancée par un homme, Jules Alix. Donc là aussi, on est dans une certaine ambiguïté.
On va pas en rester sous la Commune à des organisations de femmes impulsées par des hommes, si ?
Non, sous la Commune, il y a des femmes, et en fait, c'était déjà le cas sous le siège et à la fin du Second Empire. De façon plus importante, sous la Commune, il y a des femmes qui impulsent un certain nombre d'initiatives. On voit des clubs de femmes, déjà. Non seulement les femmes participent à des clubs le soir, clubs qui sont mixtes, où elles prennent la parole, donc où elles montent en chaire, comme on dit. Mais il y a également des femmes qui fondent des clubs spécifiquement féminins, comme le club de la Boule Noire qui est fondé à ce moment-là. Et puis, il y a également des femmes qui impulsent des comités, qui lancent des appels pour aider la Commune, en particulier pour aider la Commune dans le soin aux blessés, mais pas seulement. En avril, il y a la fondation de la fameuse Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. L'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, on le voit, il y a une volonté de développer l'aide matérielle, de former des ambulances, de faire appel aux citoyennes pour qu'elles soient ambulancières. Mais en réalité, cela va beaucoup plus loin, puisqu'il y a aussi la volonté de développer les associations ouvrières de production, donc des ateliers coopératifs de femmes en rapport avec la commission du travail de Léo Frankel. Donc on le voit, il y a des femmes dans les clubs qui impulsent des clubs, il y a des femmes qui lancent des appels donc, pour former des ambulances, il y a des femmes qui forment l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, et puis il y a aussi des femmes combattantes, des femmes en costume de garde nationale et qui vont combattre non seulement sur les barricades, mais qui vont combattre également contre les Versaillais au mois d'avril.
Les femmes multiplient les actions et interviennent sur les deux fronts, civil et militaire. André Léo crée le journal La Sociale, auquel participent Anne Jacquelard. Sophie Poirier et Béatrice Excoffon animent le comité de vigilance de Montmartre et avec les ateliers, donne du travail aux femmes. Nathalie Lemel et Elisabeth Dimitriev, arrivées à Paris en mars, fondent l'Union des femmes le 11 avril. Elles lancent un appel aux citoyennes de Paris. Citoyennes, l'heure décisive est arrivée, que s'en soit fait du vieux monde. Nous voulons être libres. Le soir, une réunion est organisée à 20h, 79 boulevard du Temple, au Grand Café de la Nation. Mardi 11 avril, eut lieu la réunion des citoyennes, convoquée dans le but d'organiser dans chaque arrondissement des comités destinés à servir de bureaux d'enregistrement, de renseignement et de direction pour les citoyennes patriotes résolues à soutenir et à défendre la cause de la Révolution. Soit en constituant des corps réguliers pour le service de l'ambulance, soit en formant des compagnies prêtes, au moment du danger suprême, si Paris était envahi, à construire des barricades et à s'y battre, ensemble. Il y va du triomphe ou de la défaite, des principes vitaux de l'humanité, la liberté luttant contre le despotisme, le travail contre le capital, l'avenir enfin contre le passé. Des comités se sont organisés pour la plupart des arrondissements. La liste des membres des comités sera insérée sous peu dans tous les journaux démocratiques. Une adresse des citoyennes, signée des membres du comité central provisoire, a été envoyée à la commission exécutive de la commune, lui demandant de fixer des locaux pour les comités afin qu'ils puissent y siéger en permanence. La commission exécutive de la commune a adhéré à la demande et l'installation des comités va s'effectuer. Le comité central des citoyennes tâchera de se mettre en rapport avec les commissions d'ambulance et de barricade du gouvernement afin d'aider de toutes ses forces au travail de la commune. Une seconde réunion convoquée par le comité a eu lieu aujourd'hui 13 avril. Une quête faite à la réunion a produit 20 francs. La commission exécutive de l'Union des femmes comprend 7 membres. Nathalie Lemel, Aline Jacquier, ouvrière, Blanche Lefebvre, modiste, Marie Leloup, couturière, Aglaé Jarry, Elisabeth Dimitriev et Madame Collin. Des comités sont créés dans chaque arrondissement, tous présidés par des femmes. Des permanences sont assurées tous les jours. Le 14 avril est publiée une adresse des citoyennes à la commission exécutive de la commune. Les citoyennes. Considérant que le péril est imminent et l'ennemi aux portes de Paris, que la rénovation sociale a le même intérêt pour les citoyens que les citoyennes, qu'au cas où l'ennemi viendrait à franchir les portes de Paris, les citoyennes sont prêtes à se battre et vaincre ou mourir pour la défense de leurs droits communs. Le texte est signé par les citoyennes déléguées, membres du comité central des citoyennes. Adélaïde Valentin, ouvrière, Noémie Collieul, ouvrière, Marquant, ouvrière, Sophie Gray, ouvrière, Joséphine Pratt, ouvrière, Céline Delvinquier, ouvrière, Aimée Delvinquier, ouvrière, Elisabeth Dimitriev.
Cette union des femmes qui se crée donc le 11 avril, c'est à l'initiative de qui ?
Alors cette union des femmes est à l'initiative essentiellement de deux femmes. En réalité, il y en a plus, mais on retient le nom de deux femmes qui sont Nathalie Lemel et Elisabeth Dimitriev. Nathalie Lemel est extrêmement connue, en tout cas par les militants de l'extrême gauche révolutionnaire dès la fin du Second Empire. Nathalie Lemel est une relieuse, elle fait partie de l'Association internationale des travailleurs, de l'Internationale. Elle a un lien avec Varlin, elle fonde la marmite sociale. Et Nathalie Lemel s'associe avec Elisabeth Dimitriev, qui elle a un tout autre profil. C'est une Russe, une aristocrate russe, fille illégitime d'un officier russe, qui a contracté un mariage blanc pour avoir une certaine liberté, qui passe un moment en Suisse, puis en Angleterre, et qui est liée à l'Internationale et liée à Marx et qui est envoyée à Paris en mars 1871. Elisabeth Dimitriev et Nathalie Lemel donc impulsent cette union des femmes avec l'objectif de développer les ateliers coopératifs. Les femmes ne font pas partie du conseil de la commune, de l'assemblée communaliste, mais en revanche, on les retrouve dans les différentes commissions qui sont chargées de réfléchir à un certain nombre de projets et puis d'essayer de mettre en place un certain nombre d'initiatives. On trouve notamment un certain nombre de femmes dans la commission de l'enseignement, par exemple, où elles cherchent à développer à la fois l'école gratuite, l'école laïque et obligatoire qui n'existe pas encore, et puis où elles cherchent aussi à développer l'enseignement professionnel. C'est assez intéressant du point de vue des femmes, hein, parce qu'effectivement, au départ, c'est pour aider les blessés. Donc finalement, on retrouve une certaine... un certain rôle qui est traditionnellement dévolu aux femmes, hein, c'est la femme qui soigne. Petit à petit, il y a un lien avec le travail, donc là on trouve l'idée d'un rôle social et un idéal social qui est cet idéal de l'association ouvrière. Et puis, plus les combats contre Versailles s'accroissent, et puis surtout dans le contexte de la guerre contre Versailles, il y a cette volonté de défense qui est tout à fait nette chez ces femmes. Donc finalement, on passe d'une fonction a priori plus traditionnelle, hein, l'aide aux blessés, à quelque chose de social avec les ateliers coopératifs et puis à l'idée de combat qui là permet aux femmes de rejoindre les hommes dans des rôles qui ne leur étaient pas traditionnellement dévolus. Et en même temps, il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de femmes dont on ne parle pas, qui sont toutes ces femmes finalement qui restent à la maison. Donc il y a, les femmes sont nombreuses dans les clubs mixtes, dans les clubs de femmes, mais il y a aussi toute la partie cachée, c'est-à-dire ces femmes finalement qui ne prennent pas parti et qu'on ne verra pas et qu'on ne voit pas dans Paris sous la Commune.
Comparé au Second Empire, c'est un début de progrès.
C'est un moment particulier parce que c'est quand même un moment où les femmes apparaissent. On peut dire que ça rompt quand même avec le Second Empire, même si on a vu des femmes militantes à la fin du Second Empire. Là, on a vraiment la femme qui apparaît, ou en tout cas certaines femmes qui apparaissent. On parle parfois même d'une barricade de femmes qui existe au moment de la Semaine Sanglante, encore que après la question est controversée, mais enfin on en parle.
La fameuse barricade de la Place Blanche.
Voilà, c'est ça. La question est de savoir si vraiment cette barricade de la Place Blanche a existé ou non. Mais peu importe, d'une certaine façon, c'est une manière de dire que les femmes étaient là et qu'elles étaient là dans les combats. Donc oui, ça va quand même changer probablement un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas d'émancipation politique. Et puis l'écrasement de la Commune fait que finalement... assez peu d'incidence, en tout cas immédiate. Ceci dit, on peut quand même dire que les féministes qu'on voit apparaître et s'exprimer davantage encore à la fin du Second Empire, on va les revoir après, dans les années 1870 et 1880, revendiquer ce droit politique et revendiquer notamment le vote, en plus d'ailleurs de la modification du Code civil et de la fin de ce statut de mineur. Mais là encore, c'est assez ambigu parce qu'il y a des femmes qui, dans ces revendications, on voit évidemment des femmes qui ont participé à la Commune, essentiellement à partir des années 1880, donc quand elles reviennent. Mais il y a aussi une nouvelle génération, dans les années 1870, qui n'a pas participé à la Commune. Donc oui, c'est un moment émancipateur et en même temps avec quand même quelques nuances.
Quand on parle de féminisme à cette époque-là, dans les années 1870 en France...
Alors de quoi on parle ? On parle de petits groupes de femmes qui ont essentiellement deux objectifs. Un objectif qui est la fin de leur statut légal de mineur, donc le statut qui a été imposé par le Code civil de 1804, qui véritablement crée une soumission et une obéissance de la femme mariée à l'homme marié. Je vous rappelle que dans le Code civil de 1804, la femme n'a pas de responsabilité civile. Il est toujours en vigueur pendant le 19e siècle. Donc il y a ça. Il y a la volonté de sortir de ce statut de mineur. Et puis, il y a la volonté d'obtenir le vote. Et déjà, on commence à parler de la citoyenneté politique. Finalement, on parle assez peu, évidemment, de la question de la violence au sein des familles ou même donc de la violence sociale. C'est vraiment les deux principales revendications.
On peut juste parler un peu de l'éducation et de l'éducation que reçoivent les femmes à cette époque.
Donc là, il y a un cas qui est quand même assez spécifique, c'est le cas parisien. Alors, globalement, les filles, de toute façon, sont moins instruites que les garçons. C'est vrai dans tous les cas. Après, on peut distinguer les classes sociales les plus hautes, donc les membres de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie et de la noblesse. Dans ce cas-là, la fille reçoit quand même une certaine éducation, mais c'est une éducation qui a pour but la femme mariée, c'est-à-dire ce sont des rudiments d'éducation. Il s'agit essentiellement de bien former la bonne épouse qui aura quelques rudiments de piano et autres, donc pour accompagner l'homme. En dehors de ça, dès la fin du Second Empire, en fait, il y a eu différentes lois concernant l'éducation. L'instruction n'est pas encore obligatoire, l'instruction n'est pas encore gratuite, elle n'est pas laïque, mais globalement, on peut dire qu'une grande partie des Parisiens sont alphabétisés à la fin du Second Empire. Avec cette différence que les femmes, les filles, sont beaucoup moins instruites que les garçons. Et puis, d'autres phénomènes, il y a beaucoup d'écoles congréganistes, c'est-à-dire d'écoles tenues par des religieux, et c'est le cas surtout des écoles de filles. Finalement, donc, si les filles sont instruites, c'est souvent dans des écoles tenues par des religieuses. C'est aussi pourquoi la Commune, d'une part, donc, a institué la séparation de l'Église et de l'État et surtout a voulu mettre en place cette école qui était une école gratuite, obligatoire et laïque pour les filles et pour les garçons. Donc il s'agissait véritablement d'obtenir une instruction pour les filles, pour toutes les filles, donc rattraper le retard filles-garçons. et puis une instruction laïque pour éviter que les filles ne soient totalement dépendantes de l'Église et de l'enseignement religieux, de l'enseignement fait par les religieux donc dans les écoles tenues par des congréganistes. Sous la commune également, certaines femmes vont créer des écoles, en particulier donc Paul Minck qui créera une école gratuite et laïque dans l'église Saint-Pierre de Montmartre, donc avec évidemment ce but d'offrir l'enseignement aux filles et un enseignement laïque. En réalité, cette idée d'instruction gratuite, obligatoire et laïque pour les enfants de 6 à 12 ans, hein, et pour les garçons et les filles, était une volonté des républicains, en particulier des républicains radicaux. On retrouve cette idée, par exemple, dans le programme de Léon Gambetta en 1869. Donc Léon Gambetta est candidat à Belleville en 1869, et dans son programme, on retrouve cette volonté d'école libre, gratuite, laïque et obligatoire. Donc là, effectivement, c'était en fait, ça faisait partie des revendications des républicains radicaux et de l'extrême gauche révolutionnaire à la fin du Second Empire, mais la commune essaie de mettre en place cette école. Alors le problème, c'est qu'en réalité, donc, elle n'a pas le temps de former des instituteurs et des institutrices laïques, et puis elle manque d'argent également pour mettre en place cette école gratuite. Donc en fait, ça dépend des arrondissements. Ça dépend des volontés, mais il y a quand même un signe ici qui est assez fort en direction de tout le monde, des Parisiens et notamment des filles. Je voudrais aussi dire que la commune, dans ses mesures, prévoit une pension pour les veuves des gardes nationaux qui ont été tués au combat. Or, et là, c'est déjà une brèche dans le code civil, la commune prévoit que cette pension pourra aller aux femmes mariées, mais également aux concubines des gardes nationaux qui ont été tuées, et que cette pension pourra également qui est augmentée en cas de charge familiale. Et là, on voit bien à quel point il y a une avancée, puisque c'est véritablement aller à l'encontre de ce qui était prévu, enfin de ce que la société française vivait sous l'influence du code civil.
Versailles commençait à croire Paris imprenable malgré les dépêches de M. Thiers, le 3 avril. Cette journée est décisive pour le sort de l'insurrection. Le 4, les insurgés ont éprouvé aujourd'hui un échec décisif. Le 7, cette journée est décisive. Le 11, on prépare contre les insurgés des moyens irrésistibles. Le 12, les insurgés fuient à toutes jambes, on attend le moment décisif. Le 15, nous tenterons par une épreuve décisive de mettre un terme à cette guerre civile. Malgré tant de succès décisifs et de moyens irrésistibles, l'armée versaillaise se morfondait toujours aux avant-postes parisiens. Ses seules victoires décisives étaient contre les maisons de l'enceinte et de la banlieue. Le 6, il avait rendu le commandement d'une armée française à ce MacMahon. Monsieur Thiers envoya Jules Favre repleurer auprès de Bismarck. Le Prussien rendit 60 000 prisonniers et autorisa son confrère à porter à 130 000 hommes le nombre des soldats sous Paris qui, d'après les préliminaires de paix, ne devaient pas dépasser 40 000. Thiers montra une habileté réelle à l'adresser contre Paris. Les soldats furent bien nourris, bien habillés, sévèrement éloignés de tout contact avec le dehors. La discipline se rétablit. Ce n'était pas cependant une armée d'attaque, et les hommes détalés devant une résistance soutenue. Malgré les vantardises officielles, les généraux ne comptaient réellement que sur l'artillerie à laquelle ils devaient les succès de Courbevoie et d'Asnières. Le canon seul pouvait battre Paris.
Comme des rades dans Paris, par trahison, on nous a pris. Le macadam et les pavés de notre sang furent lavés. Lavés et tant lavés qu'ils en sont déjointés. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. Les gredins de capitulaires ont massacré les communards. Mais devant messieurs les Prussiens tremblant comme des petits chiens, ils ont vendu leur peau, leur pays, leur drapeau. dansons la communarde, et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde, et tenons bon, nom de nom. Gredins sans cœur et sans remords, ils ont partout vomi la mort. Et Mac Mahon, pour ses forfaits, fut presque empereur des Français. Grand duc de Biribi et roi de Satori. Dansons la communarde, et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde, et tenons bon, nom de nom. À Versailles, dans le chantier, leurs soldats ont fait leur métier. À coups de sabre et de fusil, ils ont massacré nos amis. Leurs soldats, à présent, ont une odeur de sang. Dansons la communarde, et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde, et tenons bon, nom de nom. On ne peut pas dire à Paris tous les crimes qu'ils ont commis. Il faudrait des mains de papier pour griffonner des mois entiers. Mais le jour se fera et l'histoire en dira. Dansons la communarde, et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde, et tenons bon, nom de nom. Que voulions-nous, la liberté et le bien de l'humanité? Pour nous venger des chenapans, il nous faut faire des enfants, en faire des gaillards et de francs communards. Dansons la communarde, et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde, et tenons bon, nom de nom.
Pour la seconde fois, la ligne était tracée bien nette. Si l'hôtel de ville n'avait guère défini la commune, la bataille, le bombardement, les fureurs versaillaises, les échecs des conciliateurs la montraient nettement aux yeux de tout Paris. Un camp de révoltés. Le 13 avril, sous la présidence de Courbet, Eugène Potier, dessinateur sur tissu, présente le rapport qui sera l'acte constitutif de la Fédération des artistes. Plus de 400 artistes étaient présents. A eu lieu dans le grand amphithéâtre de l'école de médecine la réunion d'artistes provoquée par M. Courbet avec l'autorisation de la commune. La salle était absolument pleine et tous les arts y étaient largement représentés. M. Potier donne avant tout lecture d'un rapport élaboré par une commission préparatoire. Ce document contenait des considérations vraiment élevées sur les besoins et les destinées de l'art contemporain. Confier aux artistes seuls la gestion de leurs intérêts. Les artistes de Paris adhérant au principe de la République communale se constituent en fédération. Ce ralliement de toutes les intelligences artistiques aura pour base la libre expansion de l'art, dégagée de toute tutelle gouvernementale et de tout privilège, l'égalité des droits entre tous les membres de la fédération, l'indépendance et la dignité de chaque artiste mise sous la sauvegarde de tous par la création d'un comité élu au suffrage universel des artistes. Ce comité fortifie les liens de solidarité et réalise l'unité. Le comité est composé de 47 membres représentant les diverses facultés, 16 peintres, 10 sculpteurs, 5 architectes, 6 graveurs et lithographes, 10 membres représentant l'art décoratif nommé improprement art industriel. Ce gouvernement du monde des arts par les artistes a pour mission la conservation des trésors du passé, la mise en œuvre et en lumière de tous les éléments du présent, la régénération de l'avenir par l'enseignement. Le comité repousse d'une manière absolue toute exhibition mercantile, tendant à substituer le nom de l'éditeur ou du fabricant à celui du véritable créateur. Il n'est pas décerné de récompense. Les travaux ordinaires commandés par la commune seront répartis entre les artistes que les suffrages de tous les exposants auront désignés. Les travaux extraordinaires sont donnés au concours. Par une décision du 4 avril, la commission exécutive de la commune convoque les artistes pour procéder à l'élection de leur commission fédérale. Cette commission est composée de 16 peintres, 10 sculpteurs, 5 architectes, 10 graveurs et lithographes et 10 représentants de l'art décoratif. Les peintres Bonvin, Corot, Courbet, Daumier, Feuillin-Perrin, Gautier, Hérault, Lançon, Manet, Millet et Pichiot, les architectes Bois-l'Office et Houdinot, les dessinateurs Gilles, Flaminck et Braquemont, les artistes industriels Fusier et Potier, le Comité fédéral des artistes désigne un bureau composé de Courbet, Dalou et Boisl'Office, reconnu par la commune et qui siège à l'ex-ministère des Beaux-Arts rue de Rivoli. Courbet est élu par 274 voix sur 290 votants. Le comité collabore avec Vaillant, délégué à la commission de l'enseignement, réorganise le musée du Louvre et met à l'abri certaines œuvres d'art menacées par les bombardements versaillais. Le 17 avril, Félix Piat écrit dans Le Vengeur un article concernant la destruction de la colonne Vendôme. La commune de Paris, considérant que la colonne de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs ou vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète, article unique, la colonne de la place Vendôme sera démolie. La commune a pris les mesures nécessaires pour l'exécution de ce décret. C'est le génie militaire et ses justes qui est chargé d'abattre ce monument de la guerre. La démolition aura lieu solennellement en présence de la véritable armée du peuple, en armes, des bataillons de la garde nationale et des membres de la commune de Paris. C'est la déclaration de la paix universelle. Les élections complémentaires du 16 avril révélèrent l'effectif insurrectionnel. La mort, les élections doubles, les démissions avaient fait 31 sièges vacants. Les illusions du 26 mars avaient disparu. On votait maintenant sous les obus. Les journaux de la commune, les délégués des chambres syndicales eurent beau appeler les électeurs aux urnes, il n'en vint que 61 000. Les arrondissements des démissionnaires donnèrent 16 000 au lieu de 51 000 votants. Le rapporteur des élections du 16 avril proposait de valider toutes celles qui avaient réuni la majorité absolue. 26 voix contre 13 votèrent les conclusions du rapport. 20 élections seulement furent validées, ce qui était illogique. Il fallait valider tout le monde ou ne valider personne, car tel fut admis avec moins de 11 000 voix et tel resta dehors avec 2 500 voix. 4 étaient des journalistes, 6 des ouvriers, 11 envoyés par les réunions publiques allèrent renforcer les romantiques. C'était l'heure plus que jamais de parler à la France. Le 6 mars, la commission exécutive, dans une adresse à la province, avait bien protesté contre les calomnies versaillaises disant que Paris combattait pour la France entière. Elle n'avait pas formulé de programme. Les protestations républicaines de M. Thiers, l'hostilité de la gauche, les décrets sans suite du Conseil déroutaient complètement la province. Il fallait au plus tôt la fixer. Le 19 avril, la commune s'adresse par une déclaration au peuple français. Dans le conflit douloureux et terrible qui impose une fois encore à Paris les horreurs du siège et du bombardement, il faut que Paris et le pays tout entier sachent quelle est la nature, la raison, le but de la révolution qui s'accomplit. Que demande Paris ? La reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits du peuple et le développement régulier et libre de la société. L'autonomie absolue de la commune étendue à toutes les localités de la France et assurant à chacune l'intégralité de ses droits, à tout Français, le plein exercice de ses facultés, de ses aptitudes comme homme, citoyen et travailleur. Les droits inhérents à la commune sont le vote du budget communal, recettes et dépenses, la fixation et la répartition de l'impôt, la direction des services locaux, l'organisation de sa magistrature, de la police intérieure et de l'enseignement, l'administration des biens appartenant à la commune, le choix par élection ou le concours, et le droit permanent de contrôle et de révocation des magistrats ou fonctionnaires communaux de tous ordres, la garantie absolue de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et la liberté du travail, l'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales par la libre manifestation de leurs idées, la libre défense de leurs intérêts. L'organisation de la défense urbaine et de la garde nationale qui élit ses chefs et veille seul au maintien de l'ordre dans la cité. Nos ennemis se trompent ou trompent le pays quand ils accusent Paris de vouloir imposer sa volonté ou sa suprématie au reste de la nation et de prétendre à une dictature qui serait un véritable attentat contre l'indépendance et la souveraineté des autres communes. Ils se trompent ou trompent le pays quand ils accusent Paris de poursuivre la destruction de l'unité française constituée par la Révolution aux acclamations de nos pères accourues à la fête de la Fédération de tous les points de la vieille France. L'unité, telle qu'elle nous a été imposée jusqu'à ce jour par l'Empire, la monarchie et le parlementariste, n'est que la centralisation despotique, inintelligente, arbitraire ou onéreuse. L'unité politique, telle que la veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles en vue d'un but commun, le bien-être, la liberté et la sécurité de tous. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage. La patrie, ses malheurs et ses désastres. Nous en appelons à la France. C'est à la France à désarmer Versailles par la manifestation solennelle de son irrésistible volonté. Appelez à bénéficier de nos conquêtes, qu'elle se déclare solidaire de nos efforts, qu'elle soit notre alliée dans ce combat qui ne peut finir que par le triomphe de l'idée communale ou par la ruine de Paris. Quant à nous, citoyens de Paris, nous avons la mission d'accomplir la révolution moderne la plus large et la plus féconde de toutes celles qui ont illuminé l'histoire. Nous avons le devoir de lutter et de vaincre.
Donc on a parlé du rôle des femmes dans la commune. Est-ce qu'on peut évoquer quelques exemples, quelques personnages marquants ?
Alors évidemment, quand on pense à la commune, on pense à Louise Michel, qu'on appelait la Vierge Rouge. Alors Louise Michel donc est une femme dans la force de l'âge, hein, au moment de la commune. Elle a 40 ans. Elle a une origine assez spéciale, hein, puisqu'elle vient de Haute-Marne et c'est la fille naturelle d'un châtelain. Louise Michel donc arrive à Paris à la fin des années 1850. Donc elle passe toute la période du Second Empire à Paris. Et Louise Michel, c'est la figure du 18e arrondissement. Elle est institutrice à Montmartre. Elle a aussi ce site particulier que c'est donc à Montmartre, elle rencontre Clémenceau. Elle est amie avec Clémenceau. Elle envoie des poèmes aussi à Victor Hugo, donc elle a des liens avec Victor Hugo. Elle écrit dans les journaux d'opposition et elle est en rapport avec toutes les figures, les grandes figures de l'extrême-gauche révolutionnaire à la fin du Second Empire, donc avec Jules Vallès, avec Varlin et avec les blanquistes, avec Raoul Rigaud et Théophile Ferré, donc, et la famille Ferré d'ailleurs. Alors, Louise Michel, on en garde un visage assez austère, toujours habillée de noir, une femme austère, énergique. Et d'ailleurs, ça va servir aussi à la propagande anticommunarde, hein, parce qu'on rappellera que finalement, cette femme est aussi inquiétante. Elle veut la place de l'homme. Elle n'a pas d'atout du point de vue de la séduction féminine. Et en même temps, on lui reconnaît une certaine impartialité, une certaine honnêteté. Donc elle est un personnage tout à fait à part. Alors, Louise Michel est une figure du 18e. Elle fait partie, après la proclamation de la République, le 4 septembre, du comité républicain de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement, qu'on appelle aussi le comité de vigilance des femmes de Montmartre. Donc, elle est dans les combats républicains, dans les combats de l'extrême-gauche révolutionnaire pendant le siège. Pendant le siège aussi, elle ouvre une cantine, sachant que les conditions du siège sont extrêmement difficiles. Elle ouvre une cantine à destination d'ailleurs essentiellement des élèves de son école, mais pas seulement. Elle a participé aussi aux journées insurrectionnelles qui ont eu lieu avant le 18 mars. En particulier la journée de janvier 1871, où elle était présente.
Du 22 janvier.
Voilà. Donc c'est une figure également du 18 mars, à Montmartre, puisqu'on sait que le 18 mars, donc, la reprise des canons a échoué à Montmartre, et c'est le début, en tout cas, officiel de la Commune. Et puis, pendant la Commune, on la verra en différents lieux, on la verra même pratiquement sur tous les plans, à la fois dans les réflexions sur l'enseignement, à la fois dans le soin aux blessés, à la fois dans les clubs où elle prend la parole, et puis enfin dans les combats, puisqu'il y a de fréquentes représentations de Louise Michel habillée en garde nationale qui cherche à défendre Paris. Louise Michel sera... déportée en Nouvelle-Calédonie, donc on sait que là, elle aura une vision tout à fait spécifique de la révolte des Kanaks au moment où les communards sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Elle a une certaine empathie avec cette révolte des Kanaks, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait représentative de l'ensemble des communards déportés en Nouvelle-Calédonie, qui eux estiment... enfin, qui sont assez loin pour l'ensemble, hein, je parle pour l'ensemble, de cette révolte des Kanaks. Louise Michel donc rentrera à Paris assez tard d'ailleurs parce qu'elle rentre parmi les dernières donc et lorsqu'elle arrive à la gare, elle est accueillie par Rochefort, donc Rochefort qu'elle a connu avant la Commune mais qui était déporté avec elle en Nouvelle-Calédonie du moins jusqu'en 1874. Au moment où Rochefort s'évade de Nouvelle-Calédonie. Et puis, elle est accueillie aussi par Clémenceau. Donc, on voit bien ici le personnage tout à fait particulier qu'est Louise Michel. Et puis ensuite, elle continuera son itinéraire de militante, et en particulier de militante anarchiste.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Où est la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougissent la terre. Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Quand ta pensée invoque ta confiance, avec la science il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire, ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit la pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots a-t-on la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on ne devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
La délégation du travail et de l'échange, exclusivement composée de socialistes révolutionnaires, s'était donnée pour objet l'étude de toutes les réformes à introduire, soit dans les services publics de la commune, soit dans les rapports des travailleurs, hommes et femmes, avec leurs patrons. La révision du code de commerce, des tarifs douaniers, la transformation de tous les impôts directs et indirects, l'établissement d'une statistique du travail. Elle demandait aux citoyens les éléments de tous les décrets qu'elle proposerait à la commune. Le délégué, Léo Frankel, se fit assister par une commission d'initiative composée de travailleurs. Sur la demande de beaucoup d'ouvriers boulangers, la délégation fit supprimer le travail de nuit, mesure d'hygiène autant que de morale. Elle prépara un projet de liquidation du monde-piété, un décret concernant les retenues sur les salaires, et appuya le décret relatif aux ateliers fermés par leurs propriétaires. 16 avril. C'est un décret historique pour les travailleurs de tous les pays qu'a pris aujourd'hui la commune. Le décret prévoit d'abord un inventaire des ateliers abandonnés, privés d'ouvrage par la fuite des patrons à Versailles, afin d'établir un plan de remise en marche de ces ateliers au plus vite. La commune l'a bien compris. Les travailleurs n'ont pas besoin de patrons pour produire. Les ateliers seront confiés aux travailleurs qui y travaillaient, encouragés à constituer des coopératives ouvrières de production. Dans ces structures sans hiérarchie, les travailleurs partagent équitablement les profits, les contremaîtres sont élus et révocables par les salariés, les amendes interdites et la journée de travail limitée à 10 heures. Un projet de constitution de ces sociétés ouvrières est mis à l'étude, ainsi que la nomination d'un jury qui devra décider de l'indemnisation payée aux patrons à leur retour contre la cession définitive des ateliers. Il est bien entendu qu'à la liquidation du monde-piété doit succéder une organisation sociale qui donne aux travailleurs des garanties réelles de secours et d'appui en cas de chômage. L'établissement de la commune commande de nouvelles institutions réparatrices qui mettent le travailleur à l'abri de l'exploitation du capital. Le décret qui abolissait les retenues sur les appointements et les salaires mettait fin à une des plus criantes iniquités du régime capitaliste, ces amendes étant infligées souvent sous le plus futile prétexte par le patron lui-même, qui se trouve ainsi juge et partie. Le décret relatif aux ateliers abandonnés restituait à la masse dépossédée la propriété de son travail. Une commission d'enquête nommée par les chambres syndicales devait dresser la statistique et l'inventaire des ateliers abandonnés qui allaient revenir aux mains des travailleurs.
Donc Louise Michel s'engage début du mois d'avril dans, je crois, le 61e bataillon de la garde nationale. Donc elle participe au combat et c'est pas la seule femme de la commune qui participe au combat aux côtés des gardes nationaux.
Non, pas du tout. Il y en a plusieurs. Alors moi, je voudrais parler d'une femme qui est moins connue, qui s'appelle Victorine Brochet. Victorine Brochet va s'engager dans la garde nationale et au fond, lorsque l'on regarde ses mémoires, donc ses souvenirs d'une morte vivante, ce qu'elle dit sur la commune, ce sont essentiellement ses combats dans le cadre de la garde nationale. Donc elle évoque de façon très crue d'ailleurs les morts et la mort. Elle évoque la mort des blessés de ses compagnons de la garde nationale. Pendant la semaine sanglante, elle se cachera, d'abord elle luttera sur les barricades, elle luttera jusqu'au dernier moment et puis quand tout sera fini, elle se cachera avec quelques compagnons de son bataillon et elle raconte de façon tout à fait émouvante comment cachés, donc ils étaient même pas une dizaine, hein, cachés dans des baraquements à Montmartre. Donc elle a vu d'une fenêtre le propriétaire de ces baraquements qui n'était au courant de rien se faire massacrer par les Versaillais. Elle fuit par une fenêtre, emportant d'ailleurs le drapeau de sa légion. Et elle raconte aussi, là, après, de façon émouvante, comment elle est cachée, recueillie, pour échapper aux Versaillais. Ensuite, donc, elle parviendra à partir en exil. Donc, des femmes, il y en a de diverses origines sociales, au fond, et il y a des travailleuses manuelles, il y a aussi des, ce qu'on pourrait appeler de nos jours des intellectuelles. Alors, dans les travailleuses manuelles, il y a Nathalie Lemel, hein, dont on a déjà parlé, qui est relieuse, internationaliste, et qui d'ailleurs, après l'amnistie, sera de nouveau employée un moment à l'intransigeant, au journal L'Intransigeant de Rochefort, encore comme relieuse. À côté d'elle, puisqu'on a parlé des créatrices ou des fondatrices des deux principaux noms de l'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés, on a parlé d'Elisabeth Dimitrieff. Or, Elisabeth Dimitrieff, elle, est une jeune aristocrate russe qui a lutté contre le régime tsariste, qui a fait partie de la section russe de l'Internationale en Suisse, puis a été déléguée à Londres. C'est lié à Marx, a été envoyée par Marx à Paris en mars 1871. Et après la Commune, donc elle parviendra à fuir en Russie. Elle épousera un condamné à la déportation en Sibérie, donc un Russe, et elle mourra en Sibérie en 1910. Ou bien encore Paul Minck. Paul Minck, elle aussi, est issue donc d'une famille et d'un milieu qui vient de l'étranger, puisque c'est la fille d'un comte polonais qui s'était réfugié à Paris après 1830, au moment de la monarchie de Juillet, donc comme beaucoup de Polonais d'ailleurs, après 1831. On peut penser aussi à André Léo, hein, André Léo qui est une féministe aussi convaincue, qui fait partie de ces milieux de l'opposition à la fin du Second Empire et qui sera par ailleurs liée de façon très importante à Benoît Malon. Alors André Léo, c'est la veuve d'un disciple de Pierre Leroux, donc Pierre Leroux étant faisant partie de ce qu'on appelle les premiers socialistes français dans la première moitié du 19e siècle. Et André Léo est à la fois une romancière, une féministe, elle est liée à ces milieux des femmes et du mouvement social de la fin du Second Empire et donc des figures très diverses finalement, mais qui se retrouvent soit dans la volonté du combat social et ou du combat féministe. Je pense aussi par exemple à Anna Jaclard, qui elle aussi est une Russe, hein, c'est la fille d'un général russe et qui par ailleurs est la compagne de Victor Jaclard, qui est un blanquiste. Tous les deux participeront donc en couple à la Commune avec diverses fonctions.
Voilà, donc beaucoup de femmes tout de même investies dans la commune avec les nuances qu'on a pu apporter, d'origine sociale différente et aussi pour une partie issue de l'étranger. Une dimension qu'on aura l'occasion d'évoquer probablement la semaine prochaine.
Alors beaucoup de femmes, je ne sais pas, mais en tout cas des femmes tout à fait énergiques et des femmes dont les itinéraires sont tout à fait fantastiques.
Ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, à Local, à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.